Louise Valory, un amour vrai. Chapitre 1er. Deux amis. Il est, à Paris surtout, d'étranges existences qui sont une énigme, et pour la foule, et pour ceux qui entourent ces êtres mystérieux, et même pour les rares amis qu'ils peuvent avoir. Quoiqu'à première vue, ils semblent vivre de la vie de tous, ils sont toujours enveloppés d'une espèce de brume qui noie leurs contours, et où viennent s'émousser les regards les plus curieux, les plus investigateurs. La mort, le plus souvent, est l'Édipe de ces existences sphinxales, et quelques lignes insérées dans les journaux, aux nouvelles diverses, donnent une heure de célébrité à ces êtres étranges, qui ne demandaient qu'à rester inconnus, enveloppés d'un mystérieux linceul, trempés de larmes, rarement de sang, enseveli presque toujours dans la tombe d'un premier rêve et comme muré dans l'isolement et dans l'oubli par un enchaînement de circonstances fatales. Ces gens-là parlent peu. Ils ont, pour ainsi dire, un regard en dedans comme les somnambules. Leurs habitudes sont régulières, paisibles même. Ils ne heurtent jamais, ils passent sans faire de bruit, ils font peu de dépenses, encore moins de dettes. Ils traversent la vie et le courant du monde sans s'y mêler. On éprouve pour eux un indéfinissable mélange d'attraction et de répulsion. Les enfants, nature intuitive et chez lesquels l'instinct du merveilleux est si développé, s'approchent timidement d'eux. Ils les regardent quelques instants avec leurs grands yeux limpides, puis, en se réfugiant dans les bras de leur mère ou de leur bonne, ils s'écrient « J'ai peur !» Pourquoi ? Ils n'en savent rien. Ils ont peur de l'inconnu, de ce que je ne sais quoi qu'ils sentent, de ce je ne sais quoi qu'ils sentent sans pouvoir l'analyser. Un jeune homme, employé en 1800 au ministère des Finances, faisait éprouver les mêmes impressions d'inquiétude et de curiosité, quoique en apparence sa vie fût des plus placides. Il se montrait fort assidu à son bureau, il remplissait ses fonctions avec intelligence et exactitude. On ne lui connaissait point de parents, il ne parlait jamais de sa famille. On l'appelait Monsieur Marcel. Quelques anciens employés prétendaient que, 5 ou 6 ans auparavant, un monsieur fort respectable venait de temps en temps le voir, semblait s'intéresser particulièrement à lui et l'avait recommandé en haut lieu. Ce n'était, assurait-on, ni son père, ni même son parent. Du reste, ce jeune homme fréquentait peu ses camarades de bureau. Il n'avait avec eux que des rapports de politesse. Ils l'appelaient le rêveur, le poète, et ils avaient fini par ne plus faire attention à ses excentricités, plutôt pressenties qu'apparentes, car rien dans son costume, dans ses manières, dans ses habitudes, ne visait à la singularité. Il y avait pourtant quelque chose d'étrange et d'attractif tout ensemble dans les lignes de son front large et droit, dans la mobilité mystérieuse, profonde, phosphorescente, de ses grands yeux gris, à reflets tantôt bleus, tantôt verdâtres, ombragés par des sourcils noirs délicatement arqués. Sa bouche fine est pourtant dessinée avec fermeté, avec quelque chose d'arrêté, de résolu, et semblait recéler un secret qui tentait parfois de s'échapper. Sa taille, un peu au-dessous de la moyenne, était souple et cambrée. Sa main était petite et douce. Tout en lui révélait une nature féminine, quoique accusée. Il avait peu d'amis, mais il s'était lié comme on se lie à Paris, sans savoir quand, comment, pourquoi les relations se forment, l'intimité s'établit, avec un peintre de talent, jeune encore, et qui commençait à avoir un nom dans le monde artistique, Lucien Adger. Il se voyait souvent. Mais Lucien questionnait peu Marcel sur sa famille et sur les incidents de sa vie, absorbé qu'il était par un travail opiniâtre, une pensée fixe, ascendante, et que les artistes appellent l'amour de l'art, espèce de polype qui s'implante dans leur cœur, l'emplit tout entier et ne laisse quasi plus de place pour l'amour d'autrui. Cet amour de l'art ne serait-il point tout simplement l'égoïsme qui revêt habilement la robe d'azur et la ceinture d'étoiles de l'idéal pour se faire accepter et même admirer de la foule ébahie? Presque tous les jours, en sortant du ministère, Marcel se rendait à l'atelier de Lucien. Parfois, il faisait des critiques de ses tableaux et lui donnait des conseils que le peintre n'écoutait pas toujours, ne venant pas, disait-il, d'un homme du métier. L'un jugeait avec son sentiment, l'autre avec son sens pratique. Marcel prétendait que l'art est un flambeau qu'on ne doit allumer qu'au foyer du cœur. Lucien professait la maxime de beaucoup d'artistes, l'art pour l'art, et il mettait l'habileté, l'adresse, le savoir-faire au niveau du sentiment. Enfin, élargissant leur point de vue, ils agitaient les grandes questions d'affranchissement, ou plutôt de réhabilitation de la femme. Marcel prétendait que si Dieu avait jugé nécessaire la participation de la femme pour créer un être non seulement matière, mais encore intelligence, et dans lequel prédomine souvent l'élément maternel, il voulait aussi la participation de la femme pour créer l'idée. Et Lucien se prenait à rire. Il affirmait, lui, que la femme devait rester ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de gracieux, d'amusant, qui divertit quelquefois, qui fait damner plus souvent encore. Un roman vif, alerte, écrit au courant de la plume, touchant à tout, n'approfondissant rien, et qu'on lit entre deux stations de chemin de fer, l'amour à grande proportion étant toujours une stupide chose, déraillant la vie de l'homme le mieux organisé et l'empêchant d'atteindre aucun but sérieux. Et Marcel se récriait en ajoutant que si la femme restait souvent un être futile, c'est que l'homme ne daignait jamais la prendre au sérieux et que dans la pensée éternelle, elle devait compléter l'homme au moral comme au physique. Lequel des deux avait raison, peut-être bien tous deux ensemble. Seulement, ils n'avaient pas le même point de vue, l'un jugeant la question avec les idées du passé, l'autre avec les idées de l'avenir. Quoiqu'ils fussent rarement du même avis, il fallait pourtant qu'ils se comprissent par quelque côté du cœur, car leurs discussions ne dégénéraient jamais en dispute. Lucien parlait souvent à Marcel de ses fantaisies pour quelques modèles, de son amour pour une femme du monde dont il était l'amant. Marcel, lui, ne l'entretenait jamais de ses maîtresses, quelques questions que Lucien lui adressât à ce sujet. Est-ce que, dans l'agenda de son cœur, ou plutôt de sa fantaisie, où les hommes inscrivent tant de noms de femmes, toutes les pages étaient encore blanches? Souvent, les yeux de Marcel s'arrêtaient sur Lucien avec une expression étrange, indéfinissable. Alors leur nuance fauve semblait comme assombrie. Parfois même, une larme frangeait ses cils. Les deux jeunes gens différaient de visage, aussi bien que de caractère. Lucien était grand, blond, ses mouvements étaient brusques, son regard était chercheur, inquiet, et quoique ses traits fussent plus accusés que ceux de Marcel, les lignes de son front avaient quelque chose de moins fermement dessiné. Tout en lui révélait l'artiste, l'artiste aux impressions plutôt vives que profondes, l'artiste en contradiction perpétuelle avec sa pensée et toujours de bonne foi dans ses contradictions. Chez lui, la sensation était rapide, la pensée vagabonde et la réflexion paresseuse. Il subissait l'influence du moment. Il s'assimilait sans s'en douter les idées de la foule. Et souvent ses idées, se trouvant en désaccord avec l'idéal qui était en lui, imprimaient à son esprit une oscillation dont il s'irritait sans en deviner la cause. Il souffrait sans savoir ce qui le faisait souffrir. Et voilà pourquoi, peut-être, Marcel l'enveloppait d'un indéfinissable regard, tout mêlé de tristesse et de mansuétude.